bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
À l'heure.
La bande originale, donc, avec Léla Kadokoudali.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Léla.
Tom Villa.
Bonjour.
Alexis Rossignol.
Ah, bravo.
Tout à l'heure, Tanguy Bassureau. Et nos invités, Emmanuel Berco et Vincent Macaire.
Ah, bravo.
Oui, c'est vrai qu'il est beau le studio, hein,
non,
Emmanuel.
Il est magnifique.
ça méritait. Et il est beau votre film aussi, une réussite, fête de famille, signé Cédric Kahn, avec Cédric Kahn.
Pour la première fois.
Catherine Deneuve, Emmanuel Berco, ouais. Vincent Macaigne. Il n'avait jamais fait de caméo, d'apparition avant.
Dans son propre film, il n'avait jamais joué dans ses propres films. Il est comédien aussi par ailleurs, il est réalisateur, mais là c'est la première fois qu'il est qu'il joue un véritable rôle dans un de ses films.
D'ailleurs, c'est un peu une réunion de réalisateurs, actrices, acteurs, hein, votre film, Emmanuel.
Ouais, c'est vrai.
Vous avez réalisé combien de films dans votre carrière?
Je sais pas.
Allez.
Une dizaine.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et alors et vous aussi, Vincent, vous avez réalisé plein de films. Bah,
pas une dizaine.
Non, mais plein de films en tout cas. Et sur votre.
Plein, ça commence à trois.
C'est ça. Plein, ça commence à deux même. Non, mais est-ce que ça change le travail d'avoir un réalisateur qui joue dans son film et d'être soi-même réalisateur? Il y a beaucoup d'entre-soi où chacun comprend finalement le travail de l'autre. Emmanuel Berco.
Non, chacun reste à sa place. Je crois que ni moi ni Vincent sur le tournage, on avait notre cerveau de réalisateur en marche. Par contre, c'est vrai qu'on avait, parce qu'on s'entendait très bien, des discussions sur la mise en scène avec Cédric, et ça, c'était très agréable. Mais ce que j'apprécie, c'est que il y a beaucoup de réalisateurs qui ont peur d'engager des acteurs qui sont aussi réalisateurs. Ou des réalisateurs qui sont acteurs, ce qui est plutôt
parce qu'ils sont pas malléables ou parce qu'ils ont peur d'être jugés.
Je pense que c'est un mélange de tout ça. Je sais que ça existe en tout cas. Et Cédric, c'est vraiment quelqu'un qui, au contraire, est dans le partage et pas du tout dans la crainte d'être jugé. Et il adore avoir l'avis aussi des gens avec qui il travaille. Ouais. C'est très agréable.
Le film sort ce mercredi, dans un dodo. Donc, on va en parler dans quelques instants. Ça s'appelle
un film français.
Oui, parlons dodo. Et nous payons bonbons. Vous allez voir.
C'est dans un dodo.
Nagui, c'est un film France Inter, on peut pas dire de mal.
Aïe. Zut. On annule l'émission alors.
Mais non, on adorait le film. Ah,
okay, on voudrait les fiches numéro 2.
Des questions concernant Emmanuel Berco et Vincent Macaigne. On va commencer par Emmanuel. Qui Emmanuel aurait aimé avoir comme maman?
Catherine Deneuve?
Non.
Une actrice?
Non. Oui.
Ah, c'est pas, pas une bonne actrice alors.
Si. Non, mais pas
alors,
uniquement,
la liste des mauvaises
pas
actrices.
Uniquement actrice. Une actrice, mais pas uniquement actrice.
Jeanne Moreau.
Non.
Ah, oh là là, ça va être compliqué là.
Une chanteuse aussi.
Française,
est-ce qu'elle est vivante encore?
Oui, vivante, c'est une actrice et réalisatrice. Ah, je peux pas vous aider plus.
Ah,
Vanille Fraise, Vanille Chocolat.
Agnès Sarda.
Non.
Ah, elle est morte.
Non.
Nicole Garcia.
Non.
Claire Denis.
Elle aurait aimé avoir comme maman, non?
Réalisatrice, chanteuse.
Ouais.
Vous le savez, Emmanuel?
Non, pas du tout.
Ah oui, d'accord. C'est ça, ça nous
donc on peut dire ce qu'on veut.
Moi, je trouve ça dur pour ma maman. J'espère qu'elle écoute pas l'émission.
Non, mais.
Bah, quand vous aurez la réponse, non, elle va pas trouver ça dur, non.
Ah bon, mais alors attends, c'est.
Le problème, c'est qu'Emmanuel n'est pas au courant, donc.
Ok,
d'accord.
On va dire Carlos.
Non. Ok, non, vous avez dit, j'aurais adoré m'avoir comme maman.
Ah, superbe. Ouais. Oh, excellente énigme.
C'est le père Fouras, ça.
Qu'est-ce qu'elle dit, ça doit pas
c'est
être
pas
une super
actrice.
Je suis une mère. Je suis une mère folle, unique en mon genre.
Non, non.
Bah, si.
Non, c'est mon fils qui a dit ça de moi.
C'est vrai,
j'aurais bien aimé m'avoir comme maman. Je pense que je suis une super maman.
Voilà. Bah, c'est cool. Bah, non,
vous
mais
avez
c'est
dit
bien.
Ça dans Psychologie Magazine.
Qui nous
écoute.
T'es abonné à Psychologie Magazine ou quoi, toi?
J'adore.
À une époque, des mauvaises langues disaient que Vincent Macaigne était un metteur en scène dur et qu'il obligeait même ses actrices, ses acteurs à faire quoi?
Coucher. À manger des frites.
À coucher. Non, ça c'est normal. Ça. C'est...
D'accord.
Ah,
pardon.
Moi je sais.
À crier?
À crier, non.
À bien jouer.
À l'aimer?
Non, c'est quelque chose de physique.
À faire des pompes.
À s'agenouiller.
À faire du sport.
Alors,
tous les jours.
Non.
À se faire mal.
Oui,
ouais,
mais comment?
À se jeter par terre.
Se frapper un peu.
Non, c'est quelque chose de douloureux.
À s'abîmer.
Je pense que personne autour de cette table n'a envie de le faire.
C'est assez tordu.
Oh, hein. Ça dépend.
Je vois ce que c'est.
Je connais la tête contre
le mur. Non, mais après tu diras si c'est vrai ou faux, mais j'imagine.
À se mettre à
c'est faux.
C'est faux, c'est partie des légendes, mais.
Des légendes urbaines. On disait qu'il obligeait ses actrices, ses acteurs sur les tournages à
pas sur le tournage, au théâtre.
Au théâtre, pardon.
Ce qui est encore plus délirant.
À
parce
faire
que...
quoi?
À se griffer l'intérieur des cuisses. Alors, très fort.
C'est pas loin.
Ah, les fesses?
Se mettre à nu et se...
Non.
Ah. Les pieds.
Ouais. Ouais, allez, je vais prendre, non, exactement. Non, mais je vais donner le point à Daniel Morin. Vous les obligez à marcher sur du verre pilé.
Non, je les oblige pas à marcher sur du verre pilé. Mais il y a eu, il y a eu un bruit
Emmanuel
qui a couru.
Emmanuel veut quitter ce matin.
Il y a eu un bruit qui a couru parce qu'il y a beaucoup de bruit qui court et les gens disent n'importe quoi sur mon travail.
Bah, c'est facile de faire courir.
Et entre autres que je faisais marcher les acteurs sur du verre pilé. Ce qui est absolument pas vrai et absolument crétin, quoi. Donc je
vois
pas comment.
Est-ce qu'on assimile
pour avoir cette idée-là?
Vincent, est-ce qu'on assimile l'énergie que vous mettez dans le travail à de la violence? C'est quoi le problème?
Non, mais je pense que les gens se font vachement de fantasmes sur le travail, quoi. Donc j'imagine que non, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient, franchement.
C'est bizarre.
Et vous travaillez. Est-ce que vous êtes comme certains? D'abord, est-ce que vous gueulez sur un plateau ou est-ce que vous êtes plutôt calme?
Non, je gueule pas tant que ça. Non.
Dommage parce que vous gueulez bien.
Pas tant que ça.
Dans le film, vous gueulez bien.
Pas tant que ça, il y a déjà une base.
Ouais. Non, mais je veux dire, non. Moi, ce que je dis souvent quand je commence à travailler, je suis pas chiant, mais je suis tenace. Donc en fait, au bout d'un moment, je continue à demander, mais sereinement, mais très longtemps.
Vous savez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça. concernant Emmanuel Berco, elle a une passion un peu étrange. Elle, je sais pas si elle collectionne, mais enfin, elle a une passion pour un objet.
Un objet.
C'est pas des parties de corps humain?
Non.
Non, mais parce que.
Oui, collectionne des doigts.
Je m'explique, Emmanuel, parce que comme enfant, vous pouviez assister à certaines opérations puisque votre père était chirurgien. Je me dis que peut-être que de là, il y a un reliquat. J'aime garder des trucs dans le formol. J'aime
un pied, un truc.
Passion un peu.
Il y a
part,
un œil qui est tombé, je vais garder.
Ça fait un cadeau.
Elle a déjà assisté à une autopsie, mais j'espère qu'elle a rien gardé de ce spectacle. Non. Non, c'est quelque chose que tout le monde peut collectionner, qui est à la portée de...
Les animaux,
les capsules, les pins...
C'est le résidu d'alimentation.
Des places de théâtre, c'est beaucoup
moins industriel et beaucoup moins fabriqué, ça.
Place de cinéma, place de théâtre...
On trouve dans la nature, des galets, du sable.
Exactement. Ouais, je prends le galet, non, c'est les cailloux. Ouais. C'est ça.
Mais vous étiez d'accord pour les places de cinéma?
Ouais.
Parce qu'elle a opiné du chef.
Non, mais
quand
elle garde ses clés aussi.
Non, mais les cailloux, ça c'est plus étonnant, les cailloux. Les cailloux parce que c'est pour leur beauté ou c'est pour le lieu que ça vous rappelle?
Pour les deux, j'ai une passion pour les choses minérales, la forme, les couleurs des cailloux et je rapporte des endroits qui sont importants de ma vie, là où je vais, toujours une pierre ou un caillou et que je mets chez moi et qui me rappelle instantanément cet endroit.
Et vous marquez la date dessus, le lieu?
Non, je marque rien parce que j'oublie pas.
Ouais, d'accord.
Non.
Alors, il y a tout un débat sur faut-il ou pas faire ces...
Mais c'est interdit maintenant de ramener du sable, par contre.
Ouais.
Ah oui, il y a un couple de Français qui s'est fait arrêter avec 40 kilos. C'était pas non plus une petite bouteille.
T'imagines la taille des poches, quoi.
Ils ont volé 40 kilos de sable. En Sardaigne, les mecs se sont fait gauler à la douane, mais c'est juste 40 kilos, ça dépasse
les 1000.
C'est pas, je garde un petit sac en papier de sable en souvenir, quoi. Bon, y a des limites. Concernant les folies de Vincent Macaigne, qu'est-ce qu'il a mis un an à comprendre après son entrée au Conservatoire de Paris?
Il fallait être à l'heure.
Un an, non, il a mis un an à se rendre compte de quelque chose.
Qu'il fallait travailler?
Non.
C'est méchant.
Non.
C'est gratuit.
Vous avez vu la question de Nagui aussi?
Non, j'ai pris 40 ans.
Il fallait passer des castings que les gens n'aient pas.
Non.
Qui serait pas seul.
C'est par rapport à l'apprentissage, quoi, du texte, de la mise en scène.
C'est justement par rapport à ce qu'il
fallait de la mémoire.
Il fallait choisir d'être.
Ce qu'on apprend au conservatoire.
Qu'il fallait savoir lire les textes.
Non.
C'est méchant.
Non. Il a mis un an à se rendre compte qu'au conservatoire, en fait,
il n'était pas fait pour ça.
Ou c'est plutôt le conservatoire qui n'était pas fait pour lui, mais pourquoi?
Il était trop doué.
Non.
Parce que c'était des cours de théâtre.
Exactement.
Pas de mise en scène.
Et vous vouliez être metteur en scène, voilà. Et en fait.
Oui, j'avais du mal à comprendre qu'on devait être comédien, quoi. Non, j'ai eu du mal à comprendre, en fait, qu'il fallait vraiment écouter le metteur en scène la première année.
Et après, vous êtes exigeant avec les autres? Bah, d'accord.
Mais je suis pas si exigeant, non, c'est pas vrai, c'est un peu une légende, hein, parce que moi, je prends beaucoup de trucs des acteurs, franchement. Je suis beaucoup moins.
Quand vous dites je prends beaucoup de trucs, c'est-à-dire vous.
Je laisse les acteurs vraiment proposer à fond.
Vous êtes une éponge, ouais.
Dès qu'il y a une bonne idée, je la prends. Je suis un peu opportuniste.
C'est clair. Non, mais c'est le rôle.
En même temps, tu serais con de pas la prendre.
Ah, c'est ça. C'est un peu le rôle de tous les réalisateurs, non?
Non, il y a des gens qui sont
provoquer
plus...
des bonnes idées.
Non, il y a des metteurs en scène beaucoup plus.
Directif.
Ouais.
D'accord. Alors, vous allez dire comment Cédric Kahn a travaillé. Il est dans le film Fête de famille. La première, alors c'est l'anniversaire de Catherine Deneuve, enfin du personnage joué par Catherine Deneuve. Et elle voudrait que l'on parle que de choses joyeuses. Et pourtant, ça va être la foire d'empoigne. Je ne sais même pas d'ailleurs comment vous pourriez pitcher le film, tellement chacun a son histoire, chacun a sa vie. Il y a une histoire d'héritage, il y a des problèmes d'argent, il y a toutes les engueulades que l'on peut imaginer au sein d'une famille, jusqu'à je te prête ma voiture, ne l'abîme pas, jusqu'à j'en ai marre de cette famille, où je suis parti pendant des années sans donner de nouvelles et maintenant je redébarque comme une fleur.
C'est
totalement tordu.
C'est un genre, le film de famille.
On se voit un peu dans un film un peu à l'italienne, très comme ça, très très vivant, dans une maison de campagne où dans laquelle on aimerait tous pouvoir y passer quelques jours, tellement elle est charmante. Mais les ondes,
c'est tendu.
Ouais, c'est assez tendu.
Oui, c'est ça, c'est les rapports de force, c'est la mise en scène permanente aussi, parce que dans une famille, chacun a un rôle à tenir, a un rôle à jouer, et puis parfois on refuse de tenir le rôle qui nous est assigné. Il y a le retour de votre personnage Emmanuel Berco, parce que c'est aussi ça, la fête de famille, ouais. Ce sont les retrouvailles. Et vous, ça fait très longtemps que personne ne vous a vu au sein de la famille.
Et qu'elle a laissé sa fille, surtout, limite en pension chez les grands-parents, c'est ça?
Enfin, on ne sait pas si elle l'a laissée ou si on la lui a prise. Hein. Je ne vais pas dévoiler des éléments du film, mais oui, c'est un peu... de toute façon, moi, je pense que dans toutes les familles, il y a des figures.
Oui.
Alors, il y a souvent l'artiste, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Bon, ben là, c'est incarné par
Vincent
le marginal, l'original, quoi. Et puis, il y a toujours la folle. Je ne sais pas si vous en avez, vous, dans vos familles. Celle dont on dit...
Ou même autour de cette table.
Autour de cette table, il y a personne à chingler.
Sans aller jusqu'à la folie, oui, c'est ça,
l'original. Non, mais elle est folle, il va encore y avoir des cris, voilà.
Moi, j'incarne ce type-là. Il y a l'artiste, l'homme d'affaires, le créateur, celui qui réussit ou celui qui galère dans sa vie.
Celui qui a de l'argent, celui qui n'en a pas.
Celui qui a des enfants, celui qui n'en a pas, et ainsi de suite. Voilà.
Mais donc, on connaît tous ça. Et finalement, même si on a tous des familles différentes... Je pense que toutes nos familles ressemblent à la famille du film.
Alors c'est vrai que vous...
Voilà, il y a un certain niveau quand même. Il y a du niveau.
Ce que je trouve assez beau dans le film quand même, en effet, il y a une sorte d'atmosphère comme ça, des comédies italiennes, qui est très joyeuse, très légère. Toute une partie du film. Et puis, le film n'est pas que léger, c'est aussi... Et je trouve que c'est Emmanuel Berco qui amène ça, une forme de tragédie dans le film.
Complètement.
Et c'est assez beau. Et ce mélange-là, je trouve... hyper beau.
Non,
c'est
touchant parce que et oui, c'est ça. On a presque envie de l'aider aussi ou de comprendre ce qui ne va pas. Et vous avez raison de préciser. D'ailleurs, on ne sait pas. Et c'est ce côté analytique tout au long du film. On ne sait pas si elle est irresponsable ou au contraire très malheureuse de la condition dans laquelle elle a été mise, peut-être par la famille ou au banc, en tout cas de cette famille. Le détonateur, c'est votre retour. Et puis l'autre détonateur, c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est vrai que il y a des familles, et ça c'est régulier, je pense, des familles qui se déchirent au moment d'un héritage, sauf que là, l'héritage se fait du vivant des parents. Les parents, enfin, en tout cas de la maman encore. Donc la maman est encore là, et là, devant le beau-père et la maman, et votre maman jouée par Catherine Deneuve, arrivent les déchirements avec « rends-moi l'argent » ou « donne-moi l'argent, donne-moi ma part de la maison ». Et ceux qui y vivent disent évidemment « bah, on va quand même pas... »
La vendre.
La vendre ou se foutre dehors pour te donner de l'argent. C'est l'argent le problème, le premier problème.
Non, c'est pas le premier problème. ce qu'elle réclame, c'est qu'elle réclame ce qu'elle réclame est parfaitement légitime. On lui a pris de l'argent qui lui revenait quand.
Mais c'est pas ça qu'elle
demande en fait. Ce qu'elle demande, c'est d'être aimée comme elle a besoin d'être aimée.
Ce que comprend la femme de son frère.
Oui. Mais comme souvent les gens qui font des crises, qui ont d'autres prétextes, c'est simplement un cri d'amour, un cri de souffrance. Et ce qu'elle veut, c'est retrouver sa place dans la famille.
Et cette famille, il y a un documentariste que vous jouez, Vincent Macken, qui se balade avec une caméra, qui filme tout.
Qui met en scène dans la mise en scène. Il y a aussi plusieurs niveaux de lecture. Hein. Ouais. Il y a aussi la mise en scène théâtrale qui intervient dans le film. Donc à chaque fois, il y a différentes façons de faire jouer à l'autre le rôle qu'on attend de lui ou pas. Et là, il y a Vincent Macken, réalisateur aussi quelque part dans le film. Enfin, en tout cas, personnage réalisateur.
Oui, c'est vrai. Oui, il fait une sorte de documentaire. Après, c'est dur de vraiment parler sans dévoiler un peu le film. parce qu'il y a, il y a un petit, en fait, c'est un film sur le secret aussi. Donc, il est très léger en apparence et petit à petit dans le film, on commence à découvrir chaque personnage de plus en plus. Après, ce que je voudrais dire sur l'argent, etc., sur Emmanuel, ce que je trouve très beau, c'est que bon, parce que là, c'est un peu gênant, mais je trouve que j'étais assez spectateur d'elle pendant tout le film, parce que j'ai trouvé assez génial, quoi. Il y a une sorte de performance d'actrice qui est géniale. Et je trouve que ça rend aussi le film totalement, passionnant, quoi, en fait. Et,
non, mais enfin, vous êtes tous extrêmement, justes, Vincent, et on peut, évidemment, abonder dans les compliments pour Emmanuel et vous en faire tout autant.
Parce que je pense.
Il y a des moments.
Non, mais enfin, je dirais pas.
Non, mais c'est vrai que c'est fascinant, la capacité que vous avez à changer de visage comme ça, en fait.
Très spectaculaire.
Je trouve assez incroyable.
Aussi, je sais jamais si il est remis.
Non, mais c'est toujours sérieux.
Peut-être moi, là.
Non, je crois qu'il est sérieux.
Pour une fois, il était sérieux.
Non, je me foutais de vous.
Mais moi, en tout cas, j'étais hyper sérieuse au sein d'un même film. C'est-à-dire que on assiste à différents mêmes personnages. J'ai la sensation, c'est ce qui crée le trouble, de se demander dans quelle mesure votre personnage est fou ou pas. Et je trouve qu'en effet, la performance, elle est plus que saluable, vraiment.
Et ils ont tous besoin d'amour, chacun à sa place. Je pense aussi à votre très jolie fiancée qui d'ailleurs surprend un peu tout le monde. C'est-à-dire que c'est le côté, mais il en a amené tellement des fiancés. Comment il fait pour amener une aussi jolie fille?
Bah merci,
d'ailleurs,
quoi.
Bah non, mais c'est dit dans le film. C'est dit dans le film.
Oui.
Non, ça surprend. C'était Isabelle Aimée Gonzalez Sola qui interprète le rôle de cette belle
Argentine.
Argentine, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'elle est présentée.
Mais pardon.
C'est comme ça qu'elle est présentée. En fait.
C'est ça.
Mais c'est aussi le regard extérieur. En fait, il y a, je crois aussi, il y a la fille, pas ta fille, à toi dans la vie.
Luana.
La fille dans le film.
Ouais. Bon, bref, mais c'est des regards extérieurs en fait qui donnent encore un autre regard sur cette famille-là et qui permet d'avoir un peu de recul aussi sur ces deux frères et cette sœur un peu, enfin cette famille un peu.
Cette famille un peu folle, ouais. Et Catherine Deneuve qui est
royale,
la plus calme de tous. C'est pourtant sa famille. J'allais dire, elle pourrait aussi être peut-être le nerf de la guerre ou la raison pour laquelle tout part en vrille. C'est elle qui a éduqué tous ses enfants et finalement elle est extrêmement calme, extrêmement posée et elle subit aussi toutes ces engueulades entre frères et sœurs.
Bah elle, je pense qu'elle a envie de préserver l'équilibre de la famille et elle préfère que la poussière reste sous le tapis, sinon elle sait comment les choses peuvent exploser. Mais malgré tout, vers la fin du film, elle se prend un paquet
de vérité,
de violence que je lui envoie dans la gueule et on sent bien que ce que je dis n'est pas tout à fait faux. Donc elle n'est pas pour rien non plus dans l'état de crise de sa fille, une façon d'aimer qui a créé des plaies.
Est-ce que il y a un côté très théâtral, mais je le dis au sens positif du terme. On est un peu dans l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. On a des personnages comme ça. Il y a aussi un crescendo. Alors je sais pas si ça peut se diviser en plusieurs actes. En tout cas, et puis il y a un dénouement. Mais on est vraiment dans quelque chose de très théâtral et dans tous les sens du terme, dans le sens spectaculaire, comme dans le sens écriture. Est-ce qu'on est dans une histoire vraie? Est-ce que Cédric Kahn vous a dit, parce qu'il a dit dans une interview qu'il portait cette histoire en lui depuis longtemps, et peut-être même depuis toujours, et qu'il lui a fallu du temps pour arriver à le faire. On a le sentiment qu'il y a quelque chose de très personnel dans ce film.
Moi, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est personnel, mais c'est pas une histoire vraie. Je pense que c'est un film qu'il a en lui et sur des sujets qu'il connaît, mais je crois pas que ce soit une.
Non, je crois pas du tout que ce soit autobiographique. Voilà. Après, c'est sûrement, comme on le fait tous quand on fait des films, inspiré de choses, de petites touches comme ça qu'il a piochées, soit dans sa famille, soit ailleurs d'ailleurs. Mais oui, je crois qu'il avait envie en tout cas de raconter depuis longtemps une histoire de famille et de mettre les femmes aussi un peu au centre de son cinéma, ce qui est une première pour lui.
C'est très joyeux, parce que là on parle de drame, d'engueulade et de problèmes au sein d'une famille, mais c'est surtout joyeux. C'est bien barré comme il faut.
C'est ce qui fait pour moi la grande réussite du film, c'est d'arriver à être aussi profond en faisant aussi rire. Enfin, pour moi, c'est les films les plus beaux, finalement, ceux-là.
Et puis, il y a une génération, celle des parents, qui est en train de péter un câble. Et puis, il y a l'autre génération, celle des enfants, qui est extraordinairement réfléchie et qui, eux, sont plus, comment dirais-je, plus organisé, quoi, plus posé.
Mais ce que je trouve, c'est à l'image de Catherine Deneuve dans ce film, qui est très tendre et qui aime tous ses enfants avec une forme de justice, quoi, quand même. Et je trouve que le film, il a cette chose-là, en fait. Il regarde tous ses personnages avec les plus stables et les moins stables, avec le même amour et la même tendresse, quoi.
En tout cas, on ne peut pas voir ce film sans s'amuser, sans être touché, sans être ému, et puis sans se projeter en se disant « Et la mienne de famille dans tout ça ? Qui est qui est où ? Est-ce que je suis le fou, le barré, l'artiste ?»
On protège toujours le plus faible, parce que quand vous pétez la bagnole, vraiment, on a envie de se dire...
Ah, tu balances tout, toi ?
Bah ouais,
dans la bande-annonce.
Oui, c'est dans la bande-annonce.
La scène est géniale, quand même.
Mais oui, la scène est géniale, mais c'est surtout la réaction de Catherine Deneuve, c'est de se dire, voilà, elle aime tous ses enfants à sa manière.
C'est quand même son chouchou.
C'est, voilà, il y a quand même... voilà. Et là, ça peut justement créer des tensions au sein d'une fratrie.
Moi, je l'ai trouvé très juste.
Ah oui.
Mais vous êtes tellement énervant dans le film, par moment, avec votre mauvaise foi. C'est formidable, à ce niveau-là, c'est formidable.
Ça sort
on m'avait rarement énervé comme ça.
Ça sort demain. Attends, la fin d'émission. Ça sort demain, donc ça s'appelle Fête de famille, le nouveau film de Cédric Kahn. Voici Tom Villa. Alors ne vous inquiétez pas, Tom Villa pose des questions, mais il donne également les réponses.
Comme Nagui.
Sauf que c'est pas pareil. Emmanuel Berco, Vincent Macken, bienvenue. Oui, Emmanuel, vous voulez dire quelque chose avant de commencer ?
Déjà, je suis hyper émue d'être là. Ça fait très longtemps que je suis pas revenue.
Ah, bah c'est gentil. Bah nous, ça nous fait hyper plaisir aussi. Longtemps, je sais plus combien de temps ça fait. Oui, Vincent ?
Je sais pas. 2 ans. En mars. Le 17 mars, ça fera 2 ans.
Ah ouais, c'est hyper précis, d'accord.
On a déjà déprimé là.
Qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas revenu depuis si longtemps, Emmanuel ?
J'ai quand même essayé de chercher tous les prétextes qui pourraient faire que je n'y aille pas.
C'est-à-dire, pourtant, je crois qu'on est quand même des gens plutôt bienveillants, accueillants, souriants.
Dégueulasse.
Ouais, un petit peu excessif, on n'est pas des PMP non plus. Non, mais quand vous dites un prétexte, vous auriez été capable d'aller jusqu'où pour ne pas faire l'émission, Emmanuel ?
Simuler un malaise, dire que j'ai eu un accident de scooter.
Non, mais ça va pas la tête, Vincent, rassurez-nous, elle est pas toujours comme ça, Emmanuel.
Si, si, je t'assure, elle est 100% folle.
Emmanuel, on va se recadrer. Leïla Kadour Boudadi, elle est gentille. Nagui, il est sympa.
Une pauvre fille qui se fait manipuler par un sale type, quoi.
Non, mais ça va pas ou quoi ? Ça va pas ou quoi ? Non, mais merde ! Vincent, dites quelque chose quand même.
Non, mais ça c'est vraiment une légende.
Ah merde, ça veut dire que vous l'aviez entendu aussi.
Vous en pensez quoi, vous tous ?
De quoi, de qui, de bah, nous, le reste de la bande ? Non mais ça va pas ou quoi ? Aidez-moi, Vincent.
Les gens sont dingues.
Exactement. Hein. Bah oui. Allez, on va revenir à la promo. Alors, vous venez nous voir pour le film Fête de famille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce film ? Déjà peut-être parler du reste du casting.
Il y a Juliette Binoche dedans.
Non, pas du tout, il y a Catherine Deneuve, l'actrice avec qui vous êtes venue, vous savez qui c'est quand même ce matin ?
Rabbi Jacob.
Pas du tout, c'est Emmanuel Berco. Enfin, Emmanuel, vous savez quand même comment s'appelle votre partenaire de jeu, non ?
Je te connais pas, en fait. On se connaît pas, en fait.
Je sens que ça va être compliqué, Nagui. Vincent Macken, aidez-moi. Comment donner aux gens envie d'aller voir ce film ?
Il y a une sorte de plan hallucinant où ils sont en moule bite et il faut exploser le lagon.
Mais c'est bizarre. Mais je l'ai pas vu dans le film.
Vous me dites si je les connais parce que j'ai pas.
Ouais, je crois que c'en est une. Hein. Bon, pour conclure, Vincent, qu'est-ce que vous pourriez dire sérieusement sur Fête de famille de Cédric Kahn ?
Je trouve que c'était un super film.
Et ben voilà, on a réussi.
Ouf, c'est pas
désolé. Bonne émission à tous.
Merci, Tom Villa.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et, ouais. Et des vérités ont été dites.
Moi, je veux garder le son d'Emmanuel Berco qui nous décrit Leïla Hamouri.
Elle a parlé pour tout le monde.
Joli
travail. Un sale type.
Joli travail. Donc, dans ce film, Catherine Deneuve, Cédric Kahn, Louana Bajrami, dont vous parliez tout à l'heure, qui joue votre fille, Emmanuel Berco, dans le film, Laetitia Colombani, Isabelle Aimé González Sola, Alain Arthur, Joshua Rosiné, Milan Atala et Solal Ferreira Dayan, plus évidemment Vincent Macken et Emmanuel Berco qui sont nos invités. Je n'ai pas pu donner toute la liste, mais c'est vrai qu'il y a ce côté très très collégial, très festif, avec aussi en toile de fond l'anniversaire de la maman ou de la grand-mère, ceux qui veulent préparer des surprises, les inconvénients de la météo à la campagne et tout ça. Enfin, c'est rempli de vie, c'est extrêmement drôle et jouissif. Et puis il y a la musique qui revient comme.
On est bien peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin.
Il y a même deux musiques, j'ai envie de dire, dans tout le film.
L'amour, l'amour, l'amour.
on parle toujours.
Est-ce que par exemple, ça, avant de tourner le film, vous saviez de quelle musique vous seriez accompagné? Parce que je trouve que ça donne une couleur très particulière, cette chanson de François Hardy et de Mouloudji.
Complètement. Oui, oui, on le savait parce qu'il fallait qu'on les chante, donc il fallait qu'on les apprenne. Mais en dehors de ça, moi je sais que je les ai beaucoup écoutés pour... Parce que c'est effectivement, je pense, ça reflète bien une part de tendresse, de douceur, de profondeur qu'a le film. Et donc, pour aller vers le film, moi, je me souviens que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté ces deux chansons qui sont très belles.
Vincent Maquette.
Ouais, pareil, oui, bien sûr. Ouais. Il fallait apprendre la chanson, mais ça n'a pas été hyper concluant avec moi parce que j'ai pas une très bonne oreille. Mais bon, j'ai appris les paroles, par contre.
Et vous le... C'est ça.
Bravo.
Bel effort. Mais si vous voulez participer à un jeu, vous me tenez au courant.
Dites non, Vincent.
Merci, Alex. Silence.
Ça va bien, tout le monde?
Ouais. Mm-hmm.
Vous avez vu comme l'ambiance est retombée avec la rentrée, là? Ça fait moins les malins sur Instagram, hein. Fini les spritz, fini les bains de soleil. Entre la semaine dernière et cette semaine, Sophie Davant, elle a perdu 2 teintes de bronzage dans l'affaire. Hier, j'ai cru que c'était Françoise Hardy, franchement. Alors, on va parler drague aujourd'hui, messieurs, dames.
S'il te plaît.
Et oui, j'étais à un mariage le week-end dernier et j'étais content parce que moi, j'ai jamais été invité à des mariages avant. Enfin, si, une fois. Mais c'est con parce qu'il suffit que tu fasses l'hélicoptère une seule fois pour que tes potes se mettent sur la liste noire, tu vois. Donc ils sont rancuniers, alors que sur le moment ça avait fait marrer tout le monde. Alors question drague, j'ai remarqué que les invités étaient fébriles, hein, tu vois, les gens n'osent plus draguer, hein. Pourtant il faisait beau, il y avait des célibataires et on dormait sur place. Franchement, on avait le tiercé dans l'ordre,
ouais.
Hein, il manquait rien. Je trouve même qu'il y a un côté indécent à pas en profiter quand c'est comme ça, tu vois. Des bolides 180 pour une seule personne alors qu'il y a des gens qui dorment dehors, tu vois. Je me dis, de temps en temps, on devrait se forcer à faire l'amour en pensant à eux, hein, sans compter qu'un mariage fin août, ça stimule. Il y a un côté dernière cartouche avant la fermeture de la chasse.
Bon, c'est une image, ouais.
Jolie image, je peux dire. Mais bon.
Belle cartouche.
Mais, ouais.
Il s'est rien passé en tout cas.
Enfin, moi, je vous dis ça, j'ai pas dragué non plus, remarque. Mais c'est parce que j'ai quelqu'un dans ma vie. Après, elle était pas là et c'était pas une question de mouchoir.
Bravo.
Donc, je m'étais dit, il y en a bien une qui va essayer. Un gars comme moi, avec un physique atypique, ça doit attirer, tu vois. Eh ben, non.
Tiens.
J'étais dégoûté parce que, tu vois, j'adorerais dire au moins une fois dans ma vie, je suis désolé, j'ai quelqu'un. Avec un air à la fois sérieux et empathique comme font les beaux gosses, là. Même ma copine était déçue. Elle m'a dit, t'es sûr, personne. Je lui ai dit, bah oui, je suis désolé, c'est peut-être parce que j'avais pas mis de cravate. Enfin, je sais pas. On sait plus draguer. Certains disent que c'est la libération de la femme face au harcèlement qui a mis fin à la drague. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas parce que les femmes ont du discernement. Si un type aborde une femme avec respect, elle va pas crier au scandale. C'est pas drôle, mais je voulais le dire, voilà. Alors, mais pour moi, c'est l'époque qui a changé. De votre temps, Nagui.
Oui.
On envoyait un slow et c'était parti.
Tu peux pas savoir.
Aujourd'hui, même quand je prends l'avion et que j'entends la petite musique d'attente dans les minutes qui précèdent le décollage, là, je pense à vous. Je me dis, il y a 25 ans, le patron, il draguait là-dessus. Et bien, même moi, j'ai connu le quart d'heure américain et les musiques spéciales drague. Dans les booms, on écoutait ça.
J'aime tes yeux, j'aime ton.
Vous souvenez ça?
Ouais, bien sûr.
Bah, c'est pas un slow, ça.
Oh, ouais, c'est pas un slow, mais bon, quand même. Ça y ressemble, non?
Non. Non.
Ah bon?
Tu mets Hotel California, là, il se passe un truc.
Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, ben, ça plombe la chronique, alors.
Ça marche.
Il y avait sensualité, quand même, c'était pas mal, déjà, ça, hein, puis... Bon, ouais. Bref. Et merci Accélérate quand même. Parce que je sais pas si elle écoute France Inter en ce moment, mais peut-être. Alors merci, parce que c'est grâce à elle que j'ai embrassé Gaëlle C, la plus belle fille du collège en 96. Parce qu'elle avait déjà des petits seins, tu vois. Alors merci à elle. Puis après, vous vous souvenez, Accélérate, elle a fait un duo avec Renaud.
Ouais, Manhattan Kaboul.
Voilà. Je vous le fais, si vous voulez, parce que j'aime bien le faire, ça. So long adieu, mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'enseignait l'islam des tyrans.
C'est un peu gênant.
Soit-il jamais lu le Coran.
Ah oui.
C'est un peu gênant.
Je vais pas refaire l'hélicoptère.
Mais non.
C'est con quand t'es persuadé que tu sentes bien un truc et que les gens te...
Ouais, on te confirme.
Bon, bref, à mon avis, si on ne drague plus aujourd'hui, c'est à cause des sites de rencontres. Je sais pas si vous savez comment ça marche, mais sur les sites de rencontres, si deux personnes se plaisent, elles peuvent engager une conversation. Et si c'est pas le cas, elles s'ignorent. On appelait ça le ghosting, en fait. Voilà. Et s'il y a pas de malaise, du coup, parce que les gens se sont pas rencontrés physiquement. Mais dans une vraie fête de la vraie vie avec des vrais petits fours, ben, les deux personnes, elles restent à la fête quand même. Et là, il y a un malaise. Et on sait plus gérer ça. Tu peux pas dire, t'es encore là, toi, je t'ai ghosté tout à l'heure, là, dégage maintenant. C'est pour ça qu'il y a plus de slow. Les slows sont devenus embarrassants. Les DJs disent, si je mets Still Loving You maintenant, je vais perdre tout le monde. Moi, j'ai des potes qui essaient d'abord de savoir si les filles sont célibataires en les cherchant sur les applis avant de tenter un truc par peur du râteau. Tiens, ça va loin. Alors que le râteau, c'est la vie. Moi, si vous me trouvez beau et plein d'énergie, mais c'est parce que j'ai pris des râteaux toute ma vie. Et sur scène, c'est pareil. À force de prendre des bides, je deviens bon. Venez me voir. Voilà, c'était la chronique Nostalgie de mardi. Bonne journée à tous, messieurs. Merci.
La bande originale. Et pour voir Alexis
à mardi, c'est
sur scène.
Oui. Tu fous la mardi, toi.
Mais oui, et pour te voir sur scène, c'est le jeudi, le vendredi et le samedi. Exactement. Au point virgule. À quelle heure? 19h.
C'est un succès. La bande originale d'Emmanuel Berco et Vincent Macken, je rappelle qu'ils sont à l'affiche de La Fête de Famille, le nouveau film de Cédric Kahn qui sort demain au cinéma. Nous allons partir et commencer en 2001 avec Emmanuel Berco.
You are the one for me, for me. For me, formidable. You are my love, very, 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 véritable.
En écoutant cette musique, vous voyez quelles images, vous voyez où?
Ah, je sais très bien. Je sais très bien pourquoi j'ai choisi cette musique, parce que c'est juste après la naissance de mon fils. Il était tout bébé, donc dans son transat, je ne sais même plus comment ça s'appelle, oui.
Non, ça dépend. Le truc debout où tu marches.
Non, il était tout petit.
Ah, allongé.
Oui, allongé. Et je me souviens que je lui passais cette chanson très très fort. Donc je vois l'appartement plein de soleil. Cette chanson très très fort, parce que pour moi c'était une façon de lui communiquer la joie de vivre, comme la vie est belle, comme c'est formidable.
Et maintenant qu'il est sourd, vous en voulez un petit peu,
non? Et 2001 pour vous, Emmanuel Berco, c'est la réalisation de votre premier long métrage.
Oui.
C'est Clément.
Oui.
Ah, tout de suite, une histoire aussi hyper saisissante.
Oui.
De toute façon, dans toute votre filmographie, jamais de. J'ai la sensation de thème comme
oui,
ça innocent.
C'est pas tiède.
Non, ouais, c'est l'histoire d'une trentenaire que vous incarniez.
Oui.
Qui tombe amoureuse d'un garçon qui a 13 ans.
Oui.
Est-ce que ça a été compliqué de monter un tel film?
C'est génial.
Parce qu'on parle souvent de la difficulté selon les sujets de monter un projet, de s'y atteler. En plus, là, c'était pas votre première réalisation. Il y avait eu des courts-métrages, ouais. Des moyens-métrages, mais pour le premier long.
Ça n'a pas été compliqué parce que c'était un film qui était initié au départ par Arte et par cet homme extraordinaire qui a disparu récemment, Pierre Chevalier. Mmh. Et il n'y avait que lui pour laisser faire ce film, en fait, je pense. À l'époque, c'était possible. C'est devenu un film de cinéma par la suite parce qu'il a été sélectionné à Cannes. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pourrais évidemment plus faire ce film.
Pourquoi ?
Bon, parce qu'il y a... Comment ça, pourquoi ?
Non, mais dites-le.
Oui, non, bah parce qu'il y a un retour à l'ordre moral évident et que...
Et pourtant, ça n'empêchera pas une femme aujourd'hui de 30 ans de tomber amoureuse réellement dans la vie.
Je suis bien d'accord avec vous.
D'un mineur.
En revanche, elle ne fera pas un film dessus. Enfin, ouais. Ça, c'est pas une histoire autobiographique, hein, je précise.
Il n'y a pas de mal.
Hein ?
Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal.
Et pourquoi c'est vrai, vous avez...
D'autant que vous aviez fait un moyen-métrage, vous étiez l'inverse. C'était
oui,
une jeune fille avec un...
Oui, exactement, tout à fait.
Avec la puce.
Ouais,
qu'est-ce qui a suscité cette histoire? D'où vient cette idée-là?
Si c'est pas personnel.
Oui, il y a eu.
Et même,
il y avait eu déjà cette histoire qui avait défrayé la chronique de cette enseignante qui était tombée amoureuse.
Oui, alors il y a plein.
Oui, alors ils sont devenus présidents. Ouais, enfin,
bon, bref, c'est
une...
Non.
Tout le monde a parlé. Si on peut éviter d'en parler.
Non, on ne parle pas de la même histoire.
Ah bah non.
Non. Ça va me revenir.
Oui. Non, mais je
vois très bien. Vincent
McCain. Alors, en 2000. Vous parlez parce qu'à l'époque, c'était considéré comme un fait divers.
Le président de l'époque était même intervenu à la télévision, avait dit un mot sur le sujet.
Mais c'était quand même un peu une autre époque. Non, mais moi j'aime bien. Non, je pense que c'était lié à un souvenir d'enfance, justement, à un mariage.
Mm-hmm. Comme
quoi. On fait des rencontres incroyables.
Ou pas.
Et je devais avoir 15 ans, moi. Et j'avais passé la journée avec un petit garçon de 8 ans et on était comme amoureux, quoi. Mm-hmm. Bon, bah, sauf qu'il ne s'est rien passé. Hein. Mais ça m'est toujours resté. Dans la tête, ce truc de tout d'un coup, on maîtrise pas des sentiments qui.
Bien sûr.
Et il s'était vraiment passé quelque chose de l'ordre.
Non, la nuance pour.
De la séduction, quoi.
Pour, ouais. pour éviter que des personnes se choquent de ce genre de propos aujourd'hui. La nuance étant sur les sentiments et l'acte. Avoir des sentiments, c'est-à-dire ressentir quelque chose, quelle que soit la différence d'âge, ça ne pose aucun problème. Ce qui pose des problèmes, en effet, c'est quand des mineurs sont abusés par des personnes majeures. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'histoire que vous racontez.
Mais pas du tout. Non, mais là, je parle de juste. Je me souviens d'un jeu de séduction, même de cette enfant vis-à-vis de moi qui m'avait beaucoup pas troublé mais beaucoup touché quoi.
Oui, on peut pas se reprocher de ressentir en plus.
Ah non, pas du tout. Il y a pas de.
Tu vois Nagui, faut pas t'en vouloir.
Il y a pas d'ambiguïté.
Il y a aucune ambiguïté.
Et Vincent McCain, vous dans les années 2000, vous écoutiez. À quelle occasion vous écoutiez ça d'ailleurs à l'époque?
C'est beau, hein? C'est joli. Hein. J'ai envie de la laisser.
On pourrait, mais.
Non, mais j'avais. C'est joli, c'est une première mise en scène et j'avais mis cette chanson en boucle. Et ça commençait comme ça, le spectacle.
Mais pourquoi celle-là? Parce qu'elle correspondait à l'ambiance du spectacle ou
c'était. J'avais monté. C'était quoi? Genre conservatoire, quoi. Manque de Sarah Kane. Et du coup, c'était des trucs sur l'amour et tout ça. Et on recommençait en boucle, comme ça, 5-6 fois le spectacle. Et on remettait cette musique-là, et de plus en plus forte. Et du coup, ça me touche un peu de l'entendre. C'était un peu un moment où j'étais assez mélancolique. Et du coup, c'était un peu un spectacle très, très tire-larme. Et
vous voulez pleurer, là? Ça vous ferait du bien de pleurer
C'est vrai. Bah, excusez-moi, mais tout le monde se fout de ma gueule, là.
C'est de la générosité.
Et 2001, c'est aussi l'année de votre premier rôle au cinéma. Dans un film de Catherine Corsini.
Ah oui, ouais, c'était une apparition.
Ouais,
quoi.
Petit rôle, ça s'appelait La Répétition.
Mais j'étais assez content parce qu'à l'époque, j'avais vraiment très peu d'argent. Et on m'avait demandé de faire le film, mais j'avais plus de jours de tournage, ils m'avaient tout enlevé. Mais ils m'ont payé.
Ah oui.
Et du coup, ça m'a permis de vivre l'année.
Ouais. Mais non.
Si. C'était super. Et du coup, mais parce que j'étais au conservatoire, moi. Donc j'étais pas, ça m'arrangeait pas de faire le film. Enfin, du coup, c'était tout bénef pour moi.
Ça finançait l'année, quoi.
Bah ouais. Ouais, enfin, j'y vais avec pas grand-chose, hein, mais...
En 2000, non, mais chaque centime était important à ce moment-là.
Bah, très important,
ouais. D'être plus payé que ce que vous aviez prévu ou
ce que
là, vous
pour moi, c'était genre une victoire, quoi. J'ai ressenti ça comme...
Vous avez gagné au loto.
Comme si je les avais arnaqués, quoi. Tu vois, genre, j'avais réussi une arnaque.
Mais ils le savent, parce qu'ils pourraient vous rappeler encore, hein. C'est
en 2011, Emmanuel Berko, vous écoutiez Gaëtan Roussel. Génial cette chanson. Gaëtan Roussel, Help Myself. Elle correspond à quoi dans votre mémoire?
Moi j'ai des époques. Alors moi je suis pas du genre à écouter 50 morceaux différents. Je vais écouter 50 fois le même morceau.
Et bon, tout le monde est comme ça.
Hein,
quand
c'est
on
vrai
trouve un truc qu'on aime, ah bah oui. Après on matraque.
Ah bon, vous m'assurez parce que. Et non, je me souviens. Bon, c'est une chanson de cette époque-là et je l'écoutais énormément. Et elle me transfusait comme ça une énergie.
Ouais.
La musique, moi, me sert beaucoup à me trouver, à puiser mon énergie.
Et quelle était la playlist à part Gaëtan Roussel, parce que en 2011, vous signez le scénario avec My When de Police. Vous vous souvenez à ce moment-là de quelle énergie vous instauriez autour de vous?
Si on remonte à l'écriture de Police, je me souviens surtout de beaucoup de travail et de concentration.
Vous ne travaillez pas en musique? Ouais.
Non, on ne travaillait pas en musique.
C'était dur à écrire Police, parce que Police est un film sublime et fort.
Et dur.
Mais
douloureux. Ouais.
Dur, mais essentiel.
C'était pas dur à écrire. De toute façon, c'est dur d'écrire et c'est dur d'écrire des scénarios. Mais c'était pas dur du tout dans l'ambiance. C'est même un très, très, très beau souvenir.
Humainement, mais, avec May Wen.
Oui, enfin, c'était une collaboration vraiment très forte et très heureuse. Mais il y avait beaucoup de matière, donc c'était dur à organiser puisque tout ça est épuisé quand même
dans
la réalité. Mmh. Voilà, donc c'était dur à organiser, mais j'ai un souvenir plutôt très, d'abord très créatif et très joyeux de ce travail.
Vous avez l'impression d'avoir créer une forme de cinéma, que ce soit d'écriture ou dans la réalisation avec Police, parce que souvent Police est cité comme une référence, où on dit un film à la Police.
C'est devenu comme ça, mais nous on n'a pas du tout eu, enfin nous on a essayé de se dépatouiller avec cette matière et sans penser à créer quelque chose, un style de scénario où tout ça était vraiment très très spontané et très, très instinctif.
C'est peut-être pour ça que vous avez créé un style, parce que c'était pas calculé justement et que c'est sorti dans son.
Après le scénario,
travail.
C'est une chose et le film en est une autre. Mm. Et c'est vrai que le film devient maintenant une référence carrément de style de cinéma, quoi.
Alexis,
je pense que j'ai une question qui va parler à pas mal de gens. Oula. Pourquoi l'avoir écrit 2SE à la fin, police? J'ai pas vraiment.
Comme un enfant l'écrirait.
Ah, c'était ça le truc.
P-O-L-I-2SE.
Ah, d'accord.
Ben, je crois, non.
Ah, d'accord.
Mais merci Alexis, jamais... tu reviens quand tu veux, on est là.
Jamais...
Parce qu'il s'occupe de la famille, des enfants.
Je pensais que ça venait du verbe policier.
Vincent McCain, vous écoutiez. Et là, vous étiez dans quel état?
Mais moi, en fait, je mets toutes les musiques que j'écoute, je les mets dans mes spectacles. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, j'écoutais ça en boucle pendant que je mettais en scène. Au moins, j'aurais laissé un beau cadavre, c'était à Avignon. Et j'ai vachement hésité à mettre cette musique dans le spectacle. J'ai pas mis, mais ça m'a porté un peu pendant les répétitions. En fait, au théâtre, je mets toujours de la musique pour répéter. Et je crois que je fais chier un peu tout le monde parce que je mets des mêmes chansons en boucle.
Aussi.
Pendant la répète.
Mais pour que ces chansons créer l'humeur et l'ambiance.
Les gens pètent les plombs et on me demande d'arrêter.
Mais à quoi aide cette musique?
Je trouve à trouver...
Une direction.
Ouais, une direction, un lyrisme ou quelque chose. Et puis, sincèrement, je trouve que Woo Life, ils n'ont pas fait trop d'albums après, mais la voix du chanteur, je la trouve folle, en fait.
Est-ce que vous faites ça pour vos spectacles ou aussi pour les rôles, les personnages que vous jouez?
C'est plus pour mes spectacles. De vrai.
D'accord.
Plus pour mes spectacles.
Et de mettre les chansons que vous aimez dans vos spectacles, c'est pas prendre le risque de s'en dégoûter à force de les écouter des dizaines?
Non, au contraire. Après, je suis content de les réécouter dans mes spectacles.
La preuve.
Ouais. Même si mon spectacle est raté, au moins au moment où ça arrive,
au moins ça, c'est réussi.
J'écoute une bonne chanson, au moins. Je me dis, tu vois, pour le public, c'est bien.
Vous signez toujours des spectacles hyper intenses, d'une énergie folle. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous colle certaines rumeurs de violence ou de quelque chose de cet ordre-là, parce que quand on voit vraiment ce que vous produisez sur scène, c'est vraiment une claque. On prend vraiment une claque. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, Emmanuel Berco, de voir un de ces spectacles.
Ouais, jamais.
Le prochain, c'est pour bientôt, j'imagine.
Non, enfin, dans un peu de temps quand même.
Ouais.
Le temps de.
Ouais. Et justement, quel regard vous portez sur vos spectacles après un certain temps? On vient de parler de police et de revoir ce film comme une forme de référence aussi. Quel regard vous portez sur une mise en scène quand ça a été capté?
En tout cas, c'est comme tous les, même quand je suis acteur, je trouve que chaque projet, c'est comme un voyage, comme si on prenait un bateau et on va dans un autre pays. Et finalement, avant des spectacles que je peux faire, mais même avant des films, j'ai la sensation que le jour où je commence à répéter ou le jour où je commence un film, où j'ai la sensation que 2 mois plus tard, je serai plus au même endroit dans ma vie. Et c'est comme un voyage, en fait. Et donc, j'imagine ça comme un voyage. Et qui change, quand même. Où je me dis, l'endroit où je vais arriver sera plus le même. Ça sera un peu changé.
Et vous aussi, par conséquent, ouais.
Et moi aussi, par conséquent, ouais. Mais je trouve que si c'est pas ça, ça vaut pas trop la peine, en fait. Après, je trouve que...
Je vous en prie.
Il y a une vraie confusion, des fois, en effet, avec l'énergie des acteurs. Ouais. Et même leur amour du théâtre, quoi, parce que en fait c'est pas de la violence, c'est une sorte d'amour et de respect pour le public, de se dire on va donner le maximum au public et pas devenir un petit professionnel du théâtre, enfin ce qui peut des fois arriver parce qu'on demande de beaucoup tourner et c'est vrai qu'il y a une dépense d'énergie qui est épuisante mais qui est une forme de respect et de beauté en fait, de dire chaque soir on va donner le maximum qu'on peut.
Mais c'est comme ça que moi j'ai reçu à chaque fois vos spectacles, quoi.
Oui, oui,
comme un don incroyable, une envie de communiquer, un fluide.
Et en même temps ça décourage beaucoup de professionnels aussi qui disent moi je ne veux pas aller au théâtre tous les soirs tellement c'est épuisant, tellement on donne tout et on met notre métier en risque.
D'acteurs.
Certains acteurs, oui.
Ouais, enfin là, ça serait long, faudrait faire une émission là-dessus, mais c'est vrai que ça peut être épuisant dans un système, mais le système de production fait qu'on doit beaucoup tourner, et des spectacles comme les miens, c'est évident qu'on peut pas jouer autant mes spectacles que les spectacles, pas moyens en termes de qualité, mais le spectacle normal produit, quoi, je sais pas comment le dire.
C'est pas une sorte de tête-à-tête, un face-à-face au théâtre standard, bien
sûr,
on peut le jouer plus de fois, mais quand on voit une mise en scène...
Même la contrainte d'être tous les soirs et de se remettre en danger tous les soirs sur scène, certains acteurs refusent de le faire.
C'est vrai, après mes spectacles...
C'est une question de rythme de vie, presque.
Sauf que là, quand on voit un de ces spectacles, on comprend pourquoi on ne peut pas le faire tous les soirs.
Il y a une forme de communion à un moment, et puis une joie, en fait, quand même. En fait. Mais c'est vrai que, par contre, de le répéter, donc de rentrer dans le système de production, de le répéter pendant un an, au bout, on n'y arrive pas, parce qu'au bout d'un moment, on est épuisé, quoi. Et moi, le premier. Hein.
Nous recevons Eudes Semeria. Bonjour.
Bonjour.
De venir à ce micro. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Nous parlons de fêtes de famille avec cet anniversaire et tout le monde se réunit. Et cette phrase de Catherine Deneuve, c'est mon anniversaire, j'ai envie que nous soyons joyeux et tout va partir en sucette. Est-ce que justement, souvent les fêtes de famille ou les anniversaires ou les fêtes calendaires sont propices à ce que tout explose?
Parce que ça explose.
Parce que la fête est, imposée. Parce qu'on dit,
oui, la fête est imposée.
Il faut qu'on s'amuse aujourd'hui.
Oui, il n'y a pas tellement de chiffres là-dessus. Mais c'est vrai, mais il y a quand même un sondage Ipsos assez récent qui dit que 40% des gens redoutent que les fêtes de famille tournent mal. Ouais. D'ailleurs, presque la moitié des gens.
C'est fou.
Donc, il y a des raisons à ça. C'est assez rare que, comme dans le film, ça parte vraiment...
En sucette.
En sucette dans le décor.
Mais alors, c'est quoi? C'est le côté imposé, pardon, qui pose un problème? C'est de
dire, c'est le côté imposé.
Aujourd'hui, on est là, on doit s'amuser. Comme aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin, on doit s'aimer, c'est écrit dans le calendrier.
Peut-être qu'on le sent pas, ou on le sent inconsciemment, ouais. Mais la fête de famille, en particulier Noël et les anniversaires, justement, des parents, c'est un exercice imposé. C'est très théâtral. Dans le sens où la fonction de la fête de famille, c'est de sacraliser la famille. C'est de dire, on est tous là, on s'aime, la famille c'est sacré. Et comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a déjà tout dit en fin de compte, en passant, en décrivant le film.
Pas avec votre vision. C'est
voilà,
ça qui
pas avec la vision psy, mais ouais. On vient tous à cette fête jouer un personnage qui a été assigné depuis l'enfance par la famille. On a une place et on vient l'occuper. Et donc il y a le raté, il y a celui qui a réussi et tout ça. Et donc il faut jouer... ce personnage.
Il n'est pas raté.
Comment?
Il n'est pas raté.
Je plaisante. Il y a l'artiste, on connaît tout ça.
Ah, c'est bien, vous avez remplacé le raté par artiste. Merci. Vous marquez des points.
Non, je l'ai ajouté.
C'est une blague.
Non, mais voilà, je blague. Il faut jouer ça. Il y a tout un scénario dans la fête de famille.
Non, il y a surtout des rapports, comme vous dites, qui sont presque dans l'ADN de chaque membre de la famille, avec le grand frère qui est au-dessus du petit, qui l'a toujours dominé, qui continuera de lui dire ce qu'il faut faire, les conseils, et ainsi de suite, avec celle qui n'est pas gérable, ou celle qui est trop protégée, ou le chouchou,
préféré, le chouchou,
voilà, des parents,
le mal-aimé,
voilà.
Les vieilles histoires qui ressortent, les anecdotes drôles et moins drôles.
Et c'est très douloureux parce qu'en réalité.
Et ça, c'est le cas dans toutes les familles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est.
C'est
naturel, en fait. On peut pas se dire, tiens, ma famille est bizarre parce qu'elle est comme ça. C'est normal.
Mais c'est totalement normal. On a tous une place. Alors, cette place, elle est mouvante. C'est un système qui est très vivant, la famille. Donc, voilà, c'est en même temps très douloureux parce que quand vous êtes l'artiste ou celui qui réussit pas, etc., vous avez le regard. Dans la fête même, vous avez le regard des autres et vous le sentez. Donc, le problème, c'est que la fête de famille, c'est pas le lieu de venir renégocier ce personnage.
Ouais.
Et donc c'est très difficile, il faut ravaler ses rancœurs, c'est interdit de dire autre chose que « je vous aime ». Vous voyez que c'est très joué.
À quel moment les cartes sont redistribuées au sein d'une famille? C'est-à-dire quelqu'un qui aura le sentiment d'avoir été le petit dernier et toujours avec la chape de plomb de ses autres frères et sœurs ou de ne pas pouvoir s'exprimer. Bref, à quel moment il va
pouvoir dans les fêtes, en tout
bouleverser
cas. Ça se bouleverse dans la vie. C'est-à-dire qu'en général, on part loin. Très souvent, quand on sent qu'on est le petit dernier ou celui qu'il faut aider, etc., on part habiter loin, on fonde sa famille. Donc, c'est des moments où on trahit la famille. Dans toutes les familles, on finit par trahir les parents. Parce que trahir les parents, ça veut dire « j'existe, je ne suis plus votre prolongement. Je vis avec mes propres... »
Eh ben, mais pourtant, c'est le cycle de la vie. Chacun crée sa famille.
C'est le cycle de la vie, mais peu de parents l'acceptent. Et il y a des parents, et on le voit, qui peuvent voler les enfants de leurs enfants, les accaparer. On le voit très bien. Et on a tous ça à faire cette trahison-là.
Et puis, pour Hakuna Matata, pour le cycle de la vie, ce sont à nouveau les enfants qui vont finir par s'occuper des parents ou les petits-enfants qui vont s'occuper des grands-parents.
C'est ça les places changent au fur et à mesure, mais elles se renégocient.
Est-ce que il y a un côté figure imposée aussi? C'est la fête de famille ou c'est l'anniversaire? On est obligé d'y aller, tu peux pas faire autrement. Et donc, c'est le côté un peu boulé de l'histoire.
Ouais. Il n'y a pas plus fabriqué qu'une fête de famille. Il n'y a aucune spontanéité.
Il faut interdire les fêtes de famille, en fait. Il faut les interdire, en fait.
Mais non, mais arrêtez, il y a quand même des bons moments dans les fêtes de famille, non?
Non, mais non, mais c'est...
Mais pourquoi vous êtes tous noirs comme ça?
Regarde Festen, regarde... On parlait, on a reçu
un cinéma.
Oui, mais à nos amours, Conte de Noël avec Arnaud de Pleuchin, c'est pareil. À chaque fois, ça finit mal,
c'est du cinéma. Mais c'est toute la condition humaine qui se joue là.
Alors, est-ce que le problème n'est pas que la parole se libère trop parce qu'on se dit de toute façon il y aura le lien de sang et quoi qu'il arrive on se permet de dire des choses qu'on ne dirait peut-être pas entre amis parce que on se retrouvera, on est frères et sœurs.
C'est après le fromage généralement que ça se passe comme ça.
Alors bon, ça dépend des familles. Des familles où on peut mal se parler sans que ça ait des conséquences, et des familles où c'est pas possible, etc. Non, ce qui compte c'est l'ambivalence, c'est-à-dire que on adore nos proches, nos parents, nos enfants, et en même temps on les déteste. Il faut bien reconnaître ça.
Ça c'est vrai.
Parce qu'on a plein de choses à leur reprocher.
Ton micro était ouvert, je pense.
Et dans la fête de famille, la parole elle est pas libérée, elle est contrainte. Et donc il y a une tension psychique énorme en disant. Je fais un peu semblant d'être content, mais j'aimerais quand même dire des choses. Et parfois, ça pète parce que.
Alors, continue. Parce que, oui, non,
parce que malgré tout, c'est la fête.
Alors, continuons.
Un peu d'alcool en plus.
Voilà ce que j'allais dire. Le côté, le repas, l'alcool, les préparatifs, le rang social, la place à table, tout ça joue aussi à pouvoir être l'étincelle qui met le feu.
C'est très explosif. Alors, ce qu'il y a, c'est que d'une part, il y a la famille, donc on a vu là que c'était plein de tensions, de conflits, etc. Et d'autre part, il y a la fête. La fête, c'est pas forcément une fête de famille, mais la fête, ça a toujours été une mise en scène, là aussi, hein, une mise en scène de la guerre. C'est-à-dire oui, c'est étonnant. Ouais. Mais il suffit de penser, par exemple, au carnaval. Ouais. Et le carnaval, on se jette des confettis à la figure, on se jette des pics, on se jette des serpentins, etc. Tomates, et on voit bien
les cailloux,
tomates, pourquoi
les
pas
cailloux, des fleurs. Ça, c'est les cailloux, c'est Emmanuel
Berco. La bataille de fleurs. On se jette des choses. Et on joue la guerre, mais symbolique. Et donc.
Oui, c'est vrai qu'il y a la bataille de fleurs aussi.
La bataille de fleurs. Ouais, l'agressivité, elle est quand même sous-jacente, mais elle est tolérable. Parce qu'elle est symbolique, et tant qu'elle est symbolique, elle exorcise un peu.
Et c'est fait pour faire rire. Voilà.
Le problème, c'est que la pente naturelle de la fête...
C'est mon genou.
Non, ça va alors.
Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui...
C'est souvent le même.
La pente naturelle de la fête, c'est d'aller de l'élégance, au débraillé. C'est vraiment... Et l'alcool va aider à ça, parce qu'on se détend, on mange, etc.
Ça désinhibe et on se permet de dire plus de choses.
Il y a une inversion des valeurs, sauf qu'il faut bien rester dans les limites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser la limite du symbolique.
Donc il n'y a pas de famille idéale, en fait, dans tout ce que vous racontez. C'est,
non, tout le monde.
C'est moi, quoi, ces familles jevouées?
C'est pas ça, mais moi je reçois beaucoup, beaucoup de monde en tant que
psy, j'imagine, ouais.
Et tout le monde, et la plupart des gens disent, mais franchement, je vais vous dire un truc, je ne suis pas dans une famille normale.
C'est quoi une famille normale?
Mais ça n'existe pas, personne ne sait ce que c'est, ça n'existe pas.
Est-ce qu'au final, il vaut mieux une famille qui se déchire ou pas de famille?
Oh, c'est
bon appétit, hein.
Non, mais c'est une très bonne question.
Moi, je pense qu'il vaut mieux une famille qui se déchire.
Pas de famille,
c'est négociable.
Pas possible.
Pas de famille, c'est quoi? C'est la solitude.
Bah oui, c'est ça. Oui.
Non, pas, parce pas d'enfant. Quand même.
Mais non, mais ça veut dire pas d'enfant surtout.
Ouais.
Dès l'instant où vous avez un enfant, vous commencez à avoir une famille. Donc, ne pas faire d'enfant, enfin, c'est juste la fin d'humanité que tu es en train de raconter là.
Est-ce que ça serait plus mal?
En même temps, il y a pas tort. Faire des enfants, c'est introduire Alien dans le vaisseau. C'est toujours.
Mais vous êtes tous fous, quoi.
Je pensais que ce film c'était l'allégorie de l'arrivée des enfants.
Mais non, mais c'est quand même le truc le plus génial au monde de faire des enfants.
Mais bien sûr, mais on est là pour ça.
Toi, tu les portes pas déjà.
Les enfants, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi du couple. Vous savez bien.
Mais dans les fêtes de famille, dans le film de Cédric Kahn, pour revenir sur le film.
Bien vu, Vincent.
Bah non, mais je veux dire, ce qui est toujours beau dans ces films-là, c'est qu'on voit une famille, mais qui n'est pas dans son quotidien social. Et en fait, c'est ça qui rend le film très léger. Et en même temps, on voit chaque personnage et chaque caractère très défini, mais dans une situation où on voit pas leur quotidien, on voit pas leur travail au quotidien, on voit pas ce qu'ils font. Ils sont réunis dans une maison.
C'est l'instant T. C'est pour ça que j'ai parlé d'unité de temps, de lieu et d'action. Et je voudrais juste revenir sur la phrase que vous avez dite sur les enfants.
À propos d'Alien.
Ouais.
Ah, moi j'ai toujours pensé que ce film racontait l'arrivée des enfants dans le couple. Oui.
Quel film?
Alien.
Ah, Alien. Ah,
oui. Vous avez des adultes tranquilles.
Et vous dites l'arrivée d'enfants dans le couple tue le couple.
En tout cas, le met en danger.
Le met en danger.
Après, c'est encore une fois une négociation. Il faut arriver à donner à chacun son.
Surtout si tu fais des enfants à la femme d'un autre. C'est ça, Nagui.
Non, mais c'est peut-être un peu pessimiste, mais c'est vrai que la tragédie grecque l'a très bien compris. La famille, c'est le lieu de la, c'est le lieu du tragique. Ouais. On voit avec Oedipe, les qui quand même tue son père, couche avec sa mère.
Oui, oui.
Et les jalousies
y a au sein de la famille. Ouais. Ça, c'est inévitable, les jalousies entre frères et sœurs.
Absolument, absolument inévitable.
Quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive. Parce que personne n'a la même place, et donc personne n'a la même chose. Alors même si les parents pratiquent l'égalité, ils pratiquent pas toujours l'équité. C'est-à-dire qu'il faut donner à chacun en fonction de ce qu'il est. De, voilà.
Vous avez pu voir Fête de famille, le film de
Sorokin ? Oui, je l'ai vu. Et il raconte exactement ça.
Et on est dans la justesse pour vous de ce qui se passe dans une famille, de ce qui peut se passer entre guillemets dans les rapports
absolument,
de famille.
Absolument. Oui, cette demande d'amour absolument effrénée de chacun, d'ailleurs à sa manière, et c'est très juste. Et en même temps, moi j'ai perçu, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai perçu une forme d'humour là-dessous,
ah, un oui, peu grinçant. Oui.
Comment ?
Oui, clairement. Oui,
oui d'accord.
Ouais, on l'a souligné peut-être pas assez, vous avez raison, on va le redire. Vous signez chez Albin Michel des pensées qui font maigrir. C'est-à-dire.
Ah, bah, donc.
Oui, alors, le titre ne dit pas que ce livre est en fait une approche existentielle du surpoids. Le surpoids, c'est-à-dire que le repas, en fait, la question de ce livre, c'est que le repas est vraiment au centre de la manière dont on veut vivre sa vie. Mm. Voilà. Mais j'aurais pu prendre un autre exemple, hein, le sommeil. Bon, là, j'ai choisi la nourriture. Parce que moi, je suis psychologue existentiel. Et voilà. Donc, je me suis intéressé à la dépendance affective.
Mais on peut maigrir en pensant.
Alors, c'est pas la méthode Coué, mais en tout cas, nos engagements, notre manière d'aborder la vie,
évidemment.
De choisir les
évidemment.
Choses, est très importante.
Ça passe aussi par se resservir quatre fois si tu n'en as pas besoin. Quoi. Ah, bah oui, la surconsommation.
Une question de sens. Voilà.
Merci, Zeneria, d'être venu à ce micro. Tanguy, bonjour, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Les préservatifs perforés ont été mis en vente.
Oui, ce qui n'a pas de sens parce qu'on pourrait penser qu'avec, on peut y goûter les nouilles, mais il y a déjà la passoire qui a été inventée pour ça. Alors, le préservatif troué, c'est vous qui criez oui, je viens. Et cinq ans plus tard, quand votre gamin vous dit allez, papa, on va au parc, vous qui dites oui, je viens.
On en parle après les infos.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Tom Villa. Tanguy Pastureau. Alexis Le Rossignol et nos invités Emmanuel Berco et Vincent Maquet. Avec ce film qui sort demain et qui s'appelle Fête de famille, et on pourrait même jouer sur l'écriture avec Fête FAI, faites une famille, allez-y, construisez une famille et vous verrez bien ce qui vous arrive, c'est un peu ça, mais après chacun y verra soit sa propre famille, soit ses propres rapports ou sa place même dans
sa propre fratrie, dans les injustices subies ou pas.
Dans une espèce de société, ouais, parce que c'est ça aussi les rapports.
C'est une mini-société et c'est un film qui à la fois nous permet d'avoir une sorte de panorama d'une famille standard, puisqu'on l'a bien compris, on a tous des familles plus ou moins fonctionnelles, dysfonctionnelles, on va le dire comme on veut.
Ça.
Voilà. Et puis l'occasion de la fête et de l'anniversaire avec Catherine Deneuve qui se retrouve au centre de toutes les attentions, c'est aussi l'occasion de régler un peu ses comptes quand même à travers une façon, on l'a dit, d'incarner le rôle pour faire plaisir à la mère ou pour agacer le frère. Et puis, il y a toujours cet événement qui vient un peu... D'ailleurs, on le voit dans le film, il se met à pleuvoir tout d'un coup. Et on sent bien que la pluie arrive et que la pluie dans un film de famille. Généralement, ça annonce pas que des bonnes nouvelles. Alors là, c'est l'arrivée du personnage d'Emmanuel Berco, qui vient mettre tout l'ordre approximatif qui semblait régner dans cette maisonnée par terre.
C'est vrai que c'est vous.
Regardez.
Non, c'est Emmanuel Berco.
Oui,
quand votre personnage débarque, c'est vrai que c'est une sorte de chamboule tout.
Oui, ou ce qu'on appelle le trouble-fête. Quoi. Ouais. Mais parce qu'en fait, elle s'en fout de l'ordre. Elle, de toute façon, elle ne maîtrise rien. Elle dit ce qu'elle pense. Si elle a envie de pleurer, elle pleure. Si elle a envie de crier, elle crie. Enfin, elle ne cherche pas à être justement sagement
coups.
À sa place. Donc évidemment, ça rejaillit sur tout le monde. Mais quand même... Ce que je trouve beau quand même, c'est que, alors c'est vrai que ça part très loin, mais finalement le film, la vie triomphe et ça se termine gaiement.
Ah bien sûr.
Parce que même quand on a un mouton noir dans une famille, on est obligé d'avancer sans lui. Et c'est aussi la force de la famille, la force du groupe, en fait.
On peut aussi le faire évoluer aussi. On n'est pas obligé d'abandonner le tournoi.
Non, mais je veux dire, même, non, mais parfois on est obligé de faire avec et de continuer à avancer. On le sait tous parce qu'on a tous connu des choses difficiles dans nos vies. Et ben, ça nous empêche pas d'avancer et d'aller plutôt vers la vie que plutôt de se morfondre. Et ça c'est la force de la famille. Je pense que ça reste au-delà de tout quand même une grande force. Et parfois, quand on n'a plus rien, et ben, il reste la famille malgré tout.
Cédric Kahn réalise et joue dans le film. C'est drôle, c'est joyeux, c'est troublant aussi à souhait. Puis c'est intelligent. Ça sort demain, ça s'appelle Fête de famille. Justement, pour de faire la famille et les enfants, on va parler capote avec Tanguy Passion.
Ça, c'est du lancement.
Tanguy, vous nous parlez donc de préservatifs ce midi.
Oui, car je pense à nos nombreux auditeurs qui, moustillés par le son de ma voix, se retrouvent à l'hôtel à midi 10 pour faire l'amour et arrêtent à midi 14 à la fin de ma chronique.
Bien sûr.
En disant à leur partenaire, c'est nul, si tu m'avais pas crié à l'oreille, ah ma yes, ma grosse loute, je viens, j'aurais en plus entendu le propos. Oui, le vocabulaire amoureux est désespérément plat, je viens, ça fait 15 ans que Marine Le Pen dit ça à la télé, 15 ans qu'elle perd à chaque scrutin. Et puis le souci, c'est que la technologie a tué le sexe. À chaque fois qu'on se sent un peu chaud, paf, Netflix sort une nouvelle saison de la Casa des Papel et on a plus envie de mater ça que les genoux cagneux de son gros. Alors eux, ils ont déjà braqué la Fabrique de la Monnaie, la Banque d'Espagne, toujours plus gros. Il reste la Banque Mondiale et la villa de Jeff Bezos d'Amazon. Non mais les séries ont remplacé le sexe, ce qui est normal parce que votre conjoint, sur un an, les 4 saisons qu'il vous propose, c'est juste lui avec plus ou moins la marque du maillot. Donc même une rediff d'arabesque, c'est plus stimulant au niveau du bas-ventre. Et puis en plus, avec l'appli Waze, il faut 2 fois moins de temps pour trouver le point P, la grande surface de bricolage, que le point G. Donc le sexe n'est plus du tout adapté à l'époque. Seuls quelques seniors au corps là le pratiquent encore, tandis qu'à la télé, en arrière-plan, Samuel Etienne de Question pour un champion pose une question sur les crustacés, la dame disant alors au monsieur, eh ben mon René, c'est pas toi qui me feras un 4 à la suite. Mais parfois, le 24 décembre au soir ou une nuit de fiesta, il arrive tout de même que des gens s'unissent physiquement avec des inconnus, si c'est une nuit de fiesta, ou avec papy, si c'est le 24 décembre au soir. Et dans ce cas, il y a danger 1. D'avoir une MST, 2. D'avoir un bébé. C'est comme une MST, sauf que ce sont les yeux qui vous brûlent parce que vous ne dormez plus. Alors contre ces deux fléaux existe une solution, le préservatif. Le préservatif, c'est en latex, comme les masques à l'effigie de Donald Trump, mais en moins effrayant. Et il en existe de toutes sortes. Alors j'ai regardé, par exemple, il y a le Silk Thin, extra fin, 0,04 mm d'épaisseur. C'est le seul cas où dans la religion sexuelle, la phrase « je ne sens rien » est acceptée. Il y a le Power Boost avec rainure et picot. C'est un peu comme de se farcir un hérisson, les fakirs l'adorent. Il y a le Ritex Delay. Vous voyez les retardateurs sur les appareils photo, quand Tati Gisten vous dit « attention, le petit oiseau va sortir ». Bon, bah c'est le même principe, grâce à un système alors de bagues qu'on enfile sur son membre. C'est aussi à ça que ressemble une cérémonie de mariage au Cap d'Agde. Il y a le fil sensitif qui transfère la chaleur corporelle dans le pénis. Ah oui, vous croyez que la personne est morte, vous criez « ah, il est tout froid », mais en fait, toute la chaleur est allée en bas. Voilà. Du coup, l'hiver, ça fait aussi chauffage, on peut se la régler à 19 degrés, et toute la famille est très confort. Et il y a le EXS Hot Chocolate au chocolat, idéal si on vit en Suisse et qu'on n'a pas trouvé de préservatif à la fondue au fromage. Mais il y a également les préservatifs perforés. Et là, vous dites, c'est idiot, ça ne sert à rien. Bien joué, puisque c'est involontaire. Des préservatifs troués ont été commercialisés. Alors, ils sont rappelés en magasin. Or, ils vont pas y aller tout seuls. À part ceux que met Raphaël Nadal, qui est tellement à fond que ses spermatozoïdes dedans se déplacent. Ils font un Plaza Athénée Roland-Garros en 7 minutes. Il faut donc, Nagui, les rapporter.
Et quel modèle de préservatif est concerné?
Alors, c'est important. Ce sont les préservatifs de la marque Soft, intitulés Tutti Fritti. Fruity. Ils sont aux fruits.
À la frite.
C'est pour les belges, voilà. Donc, il y a de la pomme, de la poire, un arrière-goût de banane. Enfin, c'est un peu comme le Beaujolais, mais avec un meilleur goût. Et donc, le lot concerné est le 17F4282. Donc, auditeur, si vous êtes en train de faire l'amour, arrêtez tout. Pensez à des trucs tristes. La carrière de Benoît Hamon, les chansons d'Eddie Depreto ou Europe 1. La Direction Générale de la Consommation a d'ailleurs émis hier une alerte, un avis de rappel où il est écrit « Les détenteurs de ces produits doivent cesser immédiatement toute utilisation ». C'est-à-dire que pour eux, on arrête ça comme on cesse de jouer à Mario Kart. Alors que ce n'est pas si simple. Il faut un sacré contrôle de son corps pour dire « Voilà bébé, j'arrête, je vais plutôt écrire une chronique ». Ou 7 chroniques si on est Daniel Morin. La Direction de la Consommation ajoute, je cite, «
les détenteurs doivent ramener les boîtes en magasin. Et là, je dis non. On ramène quelqu'un, on rapporte quelque chose. Yeah. Or, un préservatif n'est pas une personne. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment seul dans la vie. Hein, ou que vous êtes ventriloque et que vous aviez la flemme de fabriquer une marionnette de renard. Hein, donc, vous avez pris un préservatif et le spectacle, c'est vous avec la capote sur le majeur qui dit « Bonjour les enfants, si papa m'avait mis, vous seriez pas nés. Hein, » Bref, la semaine dernière, je vous parlais d'une farine bio contaminée par une plante hallucinogène. Là, ce sont des préservatifs perforés. Mais c'est quoi le projet de ce pays? Que les gens défoncés fassent des gosses et qu'il faudra expliquer un jour qu'ils ont été conçus derrière une poêle à crêpes à cause d'une capote trouée un jour de la chandeleur un peu haute? Mais ressaisissons-nous, parce que l'autre réalité, c'est que les nouveaux cas de VIH découverts par an ne baissent plus. Donc quand on fait la chose, c'est avec préservatif. Prenez le Power Boost. Il y a des picots, des rainures, c'est comme une masse d'armes. Hein, en fermant les yeux, vous aurez l'impression d'être dans Game of Thrones. Allez, fin de ma chronique, auditeur. Il est temps de rendre la clé de la chambre.
Merci. Place à la deuxième interro du jour qui concerne cette fois-ci tout ce qui se passe en termes de culture dans notre pays ou sur notre planète. Et là, pour une fois, Emmanuel et Berko et Vincent McCain, vous allez pouvoir tenter d'y répondre. Elle est attendue par des millions de spectateurs et pourtant on vient d'annoncer qu'elle n'aura pas d'histoire d'amour. En fiction, c'est une fiction. Elle est attendue par des millions de spectateurs.
La Reine des Neiges 2.
Exactement, la Reine des Neiges. Tu t'intéresses à la Reine des Neiges.
C'est vrai, c'est gênant.
C'est tellement improbable que celui qui trouve la réponse.
Tu vois,
c'est très gênant.
Mais il y a une petite passion cachée, Reine des Neiges.
Ce qui est gênant, c'est que personne n'avance et toi seul, tu te lances sur la Reine des Neiges, Daniel Morin. C'est beau, la vie.
On connaît mal cet homme, finalement. Si vous me voyez à 23h,
costume. On attendait à ce que la Reine des Neiges ait une histoire d'amour avec une femme. Finalement, ça n'a pas été le cas. Elle n'aura pas du tout d'histoire d'amour dans la suite de ses aventures, contrairement à ce que le public souhaitait. Bella Thorne, ex-star teenager chez Disney, vient de se faire remarquer pour son premier court-métrage qu'elle a réalisé. Quelle est la particularité de ce court-métrage?
Elle est nue, elle est nue.
Exactement, ouais. C'est un porno, mais Daniel.
Et qui s'appelle La Reine des Neiges 3. Et là, crois-moi, elle rencontre des gens.
Le bonhomme de neige, il est sympa.
Et pourtant, avec la neige, normalement, c'est... Oui, hein,
ok,
c'est,
merci, voilà. merci.
Sympa pour tout le monde.
Forbes vient de publier le classement annuel des actrices les mieux payés au monde. Qui est la première cette année?
Scarlett Johansson.
Femme, exactement. Oh là là. Scarlett Johansson. Vous avez une idée de son cachet annuel?
Elle est 8e au classement.
Emmanuel Berko, vous avez une idée ou pas?
Non, je dirais peut-être 20 millions de dollars.
Plus 30.
56 Merde. Millions. Non, elle n'a pas dit ça, elle. Oui. 56.
Moi, j'ai une histoire par rapport à ça. J'ai un pote qui a retrouvé sa carte bleue dans Paris. Non, je rigole pas.
Ah, par la carte terre, bleue de
et il lui a ramené. Scarlett Johansson.
Ouais. Ah oui, je comprends qu'il lui a ramené, oui.
Mais je suis. Ouais,
non, il lui a rapporté. Il a expliqué tout ça. Il ne ramène pas, on rapporte
c'est
une carte bleue.
C'est ouais. Et il vous en foutez, mais
pour une fois que je peux pas laisser cette histoire.
Mais non, mais c'est incroyable. Est-ce qu'il l'a vu grâce à ça ou pas?
Comment on la retrouve, quoi? C'est surtout ça.
Parce qu'elle a vécu.
Elle est hyper informée pour savoir où
elle est. Elle a vécu à Paris. Elle a vécu à Paris. Elle a même fait 2-3 sorties dans des talk-shows américains où elle n'était pas très tendre avec Paris.
Ah non, oui, elle était très cruelle. Elle disait qu'on était affreux.
Mal élevé, que c'était pollué.
C'est la même chose hier.
Non, pardon, t'as raison, c'est pas Scarlett Johansson, c'est Nathalie Portman. T'as raison. Ouais, pardon.
Scarlett Johansson nous
avait
classé aussi.
Elle aussi a dit ça.
Dans
le cadre d'une expo qui est consacrée à Ed Sheeran, l'artiste pop-rock, on apprend que le chanteur avait de très mauvaises notes à l'école, mais en quelle matière?
En chant.
Oui, exactement. Musique. Bon, mais c'était un carton plein, écoutez. Ah bon, non, bah non.
Je me la question était un peu facile aujourd'hui.
C'est vrai. Je m'appelle Marianne et je vais vous faire peur à partir du 13 septembre.
Série Netflix, film d'horreur.
Exactement.
Oh bon, Daniel Morin, faut qu'il arrête.
Non.
Merde. Si Daniel se met à bosser aussi,
on
s'en sort plus, quoi.
Le mec, il coule le jeu, quoi.
Un sans faute. Tout de suite. Il a triché?
Mais non, il a pas triché.
Ah, si, il a triché.
Mais non.
La Reine des Neiges, ouais, ah ça bon me semblait un peu.
Là, on me dit, les équipes, en régie disent, on va vérifier les caméras de sécurité pour voir si t'as pas triché. Netflix, donc, va faire proposer cette série. En fait, c'est une série produite par des Français, c'est ça?
Par des Français, il y a même un Français dedans, je sais plus qui est.
C'est flou cette réponse, c'est marrant. Hein,
non, mais il n'est pas trop bien.
Il y a Victoire Dubois. je crois, une jeune romancière qui découvre horrifiée que... Non, ça, c'est ça, c'est personnage. Ouais. Ouais, je sais pas. Donc, j'ai pas le nom de la comédienne, je suis désolé. Mais c'est Made in France, en tout cas, c'est une création. Okay. Justement, les plateformes, vous qui êtes réalisateur, auteur, réalisateur, dans votre travail, Emmanuel Berco et Vincent Macaigne, est-ce que vous voyez ces plateformes, les Amazon, Netflix, OCS, Canal, HBO, Apple, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Disney, compagnie, comme étant une manière de plus de pouvoir travailler et faire votre art, ou au contraire comme une vraie concurrence et comme un danger pour le cinéma?
Comme on nous annonce la mort du cinéma depuis tant d'années, moi je suis contente de me dire que je vais pouvoir me reconvertir. Non, mais en vérité, c'est vrai que ça fragilise le cinéma, en tout cas dans le système existant. Mais moi, je peux pas être contre ce déploiement de plateformes et de création et de fiction. Et d'abord parce que je les regarde et je trouve que c'est parfois d'une qualité vraiment inouïe.
Et ça permet à plein d'acteurs et de résidents de travailler.
Énormément de travail, et notamment aux acteurs. Donc, je vois pas comment on peut. Il faut sûrement aménager les choses pour que le cinéma ne pâtisse pas trop de tout ça et qui puisse continuer à exister avec vigueur, mais je crois qu'on peut pas faire la fine bouche sur cette offre qui est faite aux spectateurs mais aussi aux artistes
qui fabriquent
aux auteurs, aux metteurs en scène, aux acteurs.
Vincent Macaigne.
Non, mais je crois que ça peut ouvrir aussi tout un pan, parce que les films, ils durent entre 1h30 et 2h, et du coup, avec ces fictions, ces mini-séries, on peut raconter d'autres histoires autrement, sur plus de temps. Donc, petit à petit, ça peut être...
Avec des accroches, avec un suivi, avec une progression dans le drame ou dans l'enquête.
Ouais, mais comme les grands romans, comme...
Qui ne pas dans un film d'une heure et demie.
Ouais, comme les grands romans, comme Dostoïevski ou comme Balzac. Les
sagas ont existé d'abord en littérature avant d'être sur Netflix. Ouais.
Non, le problème, c'est que certains films de cinéma, maintenant, sortent directement sur les plateformes. Et ça, moi, je le déplore parce que je trouve que la salle de cinéma, sera jamais remplacée par rien.
Oui, et à côté de ça, Game of Thrones, ils ont fait des projections pour
à l'inverse,
en projetant. Et je crois que Amazon produit des films qui sortent au cinéma.
Oui, ça va s'ajuster, bien sûr. Oui.
Ils vont trouver leur équilibre. Fête de famille, le film sort demain au cinéma. Drôle, intelligent, bouleversant, tout l'inverse de Daniel Morin.
Oh là 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 là.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a?
Oh là là, Emmanuel, Vincent, il est tendu, votre film, il est tendu. Crise de nerfs, reproche, mauvaise foi, jalousie, héritage. Ça m'a angoissé, ce visionnage, et croyez-moi.
T'en fais pas trop?
Il en faut pour m'angoisser, Votre réunion de famille, mais quelle tension, quelle pression, on est à deux doigts de suffoquer. Et croyez-moi, il en faut pour me faire suffoquer. Moi qui initié depuis 5 ans par Nagui à la pratique de la strangulation érotique. Il en faut. En même temps, c'est ça la famille. Des gens qu'on aime, mais avec qui on peut s'engueuler à mort. Justement parce que c'est la famille. Perso, je me souviens de réunions de famille tendues, elles aussi. Ça commence toujours bien. On se prend dans les bras, c'est la famille. Oh punaise, Brigitte, ma cousine préférée, c'est trop bien de te revoir. Bertrand, le beau-père le plus cool du monde. Allez, dans mes bras, enfin, câlin. Oh, tonton Hervé, tu vas manquer. Puis au fur et à mesure, à les faire trouvailles dissipées, arrivent souvent les souvenirs gênants ou les réflexions déplacées qu'on s'autorise parce que c'est la famille. Tonton Hervé, Hervé, t'as toujours ta collection de médailles militaires nazies? Hein? Mais si, rappelle-toi la croix de fer, là, le truc là-bas, à base de croix gammée. Mais pourquoi vous me regardez comme ça, les autres? Vous étiez pas au courant pour tonton Hervé? Bon, c'est bon, c'était il y a longtemps. Ambiance de merde, on va changer de sujet. Brigitte, ma cousine, comment tu vas? En tout cas... Tu es superbe. Je me souviens de toi, plus jeune. C'était pas facile, la vie à 15 ans et 80 kilos. Hein. Coucou, attendez, moi, j'arrive pas à courir. Parce qu'on a pu se foutre de toi. C'était cruel, mais c'était drôle. Hein. Aujourd'hui, t'as fondu, c'est top. Hein. Dommage que tu puisses rien faire pour cette espèce de verrue sur le front. Enfin, bon, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Non, mais ça peut être 1000 fois pire, attention. Il y en a chez qui ça dérape. Parfois, ça explose. Imaginez ce que ça peut donner, un repas de famille, chez un célèbre écrivain, réalisateur, polémiste français, dont je tairai le nom par pudeur et par respect pour la famille Mouax. Ça va, papa? C'est bon, aujourd'hui? T'as pas envie de me jeter par la fenêtre? Oh, commence pas, Yann. On est réunis pour passer un bon moment à table. J'espère que tu vas pas m'obliger à manger de la merde comme quand j'étais petit.
Arrête, Yann, bordel. Laisse papa tranquille.
Toi, ta gueule. T'es peut-être mon frère, mais t'es qu'une sous-merde.
Sinon tu vas me torturer comme quand j'étais gosse, c'est ça?
Me pousse pas, connard, me pousse pas! Arrêtez de vous chamailler, les enfants, ça suffit! Famille de merde!
Enfoiré!
Calmez-vous, les enfants! Je vous déteste!
Espèce de charognard!
Oh, les gosses, je vous jure. Bon, je dis pas que l'infanticide est la solution. Mais en tout cas, parfois,
mais ça va.
C'est peut-être une bonne option.
Mais ça va.
À demain.
Daniel Morin. Avec Nagui. Catherine Deneuve, Cédric Kahn, Louana Bajrami, Laetitia Colombani, Isabelle Aimée Gonzalez Sola, qu'est-ce qu'elle est jolie. Alain Arthur, Josia, je regarde Vincent pour savoir s'il est... Non, aucune réaction, rien. Vous avez la chance d'avoir une très belle partenaire, en tout cas, avec vous.
Ouais.
Non, qui, au-delà de bien jouer, est joli. On a le droit, on a encore le droit de le dire ou j'ai choqué. Non,
bah, pas trop, en fait, Nagui. Hein.
J'ai plus le droit. Ok. Alain Arthur, Josia Rosiné, Milan Atala et Solal Ferreira-Dayan, avec vous, Emmanuel Berco et Vincent Macaigne, dans ce film Fête de famille, avec le rendez-vous donc donné pour l'anniversaire du personnage joué par Catherine Deneuve, qui est la maman ou la grand-mère un peu de toute cette clique, de cette vingtaine d'enfants, d'adultes qui vont se retrouver, et comme l'a décrit un peu violemment Daniel Morin, il va y avoir en effet des tensions qui vont naître, mais tout ça avec beaucoup d'amour finalement. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que chaque tension, c'est une manière un peu désespérée de crier « aimez-moi ». Emmanuel, c'est ce qui se passe pour votre personnage en tout cas.
Oui, le mien parce qu'il a une blessure d'enfance qu'on comprendra au fur et à mesure, mais chacun a envie d'être aimé par l'autre. Moi par exemple, j'aime beaucoup la relation entre le personnage de Claire que je joue et le personnage de Vincent, parce que d'abord il y a un mystère, un secret qui court tout le long du film, et qu'on sent que, parce qu'il se déchire aussi, mais qu'on sent qu'il y a une complicité et un amour qui
est révélé à la fin.
Ouais. Et ça, enfin, c'est en fait cette dualité-là qui est belle dans le film. C'est la tension qui se dispute avec l'amour, quoi.
Et Vincent Macaigne, vous, votre personnage tourne un film dans le film, cette mise en abîme dont parlait Leïla tout à l'heure, avec là aussi le réalisateur Cédric Kahn qui lui-même s'oppose au droit d'image et au tournage. Donc ça devient un peu votre propre folie aussi de réalisateur et d'acteur.
C'est vrai que dans le film il y a ce secret-là.
mais
c'est qu'il fait un documentaire. Enfin, on sait qu'il fait un documentaire sur sa famille.
Voilà.
Un peu.
J'ai dévoilé.
Ouais, voilà.
S'il vous plaît.
Enfin, il y a quand même une scène très drôle.
On est en train de le dévoiler en disant qu'on arrête de dévoiler.
C'est bizarre, non,
on dit qu'il y a un truc.
On peut pas savoir.
Il y a un truc qui va. Oui, il y a une scène très drôle.
De toute façon, faut aller le voir.
Mais c'est assez. Oui, il y a vachement de mise en abîme. Ça crée quelque chose dans cette famille. Ça crée une forme de fantaisie aussi dans le film, avec Cédric Kahn en plus.
Leïla, qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu dirais pour que le public aille voir Fête de famille?
Allez voir ce film pour avoir une petite distance sur votre propre famille, parce que c'est vraiment la vôtre dont il est question aussi. Et on n'est pas toujours suffisamment distant et serein pour regarder. Et là, on rit en plus. Donc, c'est pas que dramatique, la famille.
Daniel Morin?
Moi, j'ai retenu que si on invite Emmanuel Berco à manger, il faut tapisser les murs.
Tom Villa.
J'ai retenu que c'est très dangereux de prêter sa voiture à Vincent Macaigne.
Ça, c'est vrai. Tanguy Passureau.
Moi, j'ai retenu de l'émission que Daniel Morin s'intéresse beaucoup trop aux films pour enfants. Serait-ce notre chef Epstein français.
Alexis Le Rossignol.
J'ai retenu qu'il y a une très belle surprise à la fin. Enfin, la fin est particulière.
Ah oui. Il y a une vraie montée en puissance. Oui. Ça sort demain au cinéma. Et vous, qu'aimeriez-vous que le public dise en sortant de la salle, Emmanuel Berco, en sortant de Fête de famille?
J'aimerais qu'ils disent j'ai adoré, j'ai pleuré et j'ai ri, et il n'y a rien de meilleur au monde que de pleurer et de rire en même temps.
Vincent Macaigne?
Ouais, pareil. C'est profond, joyeux. Et vivant et rigolo.
Signé Cédric Kahn. Des excuses quand même à présenter, Daniel Morin.
Absolument, déjà désolé pour tous les ratés, les nuls, les losers, les nazes, les gens en situation d'échec, bref, les artistes qui nous écoutent et qui se sont sentis stigmatisés par notre psy Eudes Semeria. En même temps, c'est pas faux que vous servez à rien, les gars. Désolé pour tous les enfants qui, après le passage radical de Eudes Semeria, notre psy, vont passer un moment compliqué avec leurs parents qui maintenant vont les prendre pour des aliens et vont tenter de les buter. Allez, courage les mioches, vous courez plus vite qu'eux.
Désolé pour Vincent McCain maintenant, qui était venu pour une bonne partie de rigolade avec Nagui alias le trublion du Caire, et qui se sont retrouvés à chialer en écoutant de la musique triste, à se faire traiter de metteur en scène facho. Et c'est pas fini, j'ai eu la prod que vous avez arnaqué quand vous avez débuté comme comédien. Ils vous attendent à la sortie, il faut tout rembourser.
Les projets très rapidement, parce qu'il y en a tellement, on aura l'occasion de vous accueillir, j'espère, pour en reparler. Emmanuel Berco, vous êtes à l'affiche de Jumbo, oui. Où vous, et vous retrouverez Catherine Deneuve pour un film qui s'appelle De son vivant, c'est ça?
Oui, et je la retrouve comme... Enfin, c'est moi qui réalise le film.
À nouveau, après La tête haute, le retour avec Catherine Deneuve. Voilà.
C'est ça, qui est un mélodrame de son vivant.
Oui, d'accord.
Vincent, vous avez tourné Tapé chaud avec Ramzi Bedia, oui, il faut assumer. et vous allez tourner dans le prochain Samuel Benchetrit, vous allez tourner avec Carole Rocher, avec Emmanuel Mouret, enfin vous avez énormément, French Dispatch également, de Wes Anderson.
Non, French Dispatch, c'est vraiment, je fais la figuration. Hein.
Bah oui, mais
non,
vous y êtes quand même.
J'apparais vraiment au fond d'un cadre. Non, vraiment.
Oui, c'est ça, il a pris des Français pour faire la figure. Benjamin Lavergne, c'est ça.
Voilà.
Et vous serez dans le premier long métrage de Laurent Lafitte,
ouais,
qui sortira en novembre, mais de l'année prochaine.
Le 11 novembre, je crois.
Ah oui.
Ouais, c'est
ça s'appelle L'origine du monde.
C'est super.
Mais ça sera en 2020.
Bah oui, je crois. Ouais.
C'est pas là, c'est pas dans un mois.
Non, c'est pas dans un mois. C'est le 11 novembre.
D'accord. D'accord.
Mais c'est tourné déjà.
Demain, ouais. Alice Taglioni et Vincent Elbaz seront nos invités pour Andy. On vous souhaite une bonne journée. Pardon pour ce retard. Carnet de campagne, c'est Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Salut Nagui, merci. Et à demain.